14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Quand on a un voyou comme ça, qui a un minimum de tenue, qui est agréable, avec qui on peut parler, et puis qui a un palmarès pareil, on est content d'échanger. C'est un beau voyou, un beau mec, comme on dit dans le jargon policier. C'est surtout qu'on considère que ce sont des voyous, d'abord, qui ont un palmarès criminel qui se tient, et puis c'est aussi des types qui se tiennent droit quand ils sont interpellés.
Bonjour, il se prénomme Antonio, mais il y a belle lurette que tout le monde l'appelle simplement Nino, le roi de l'évasion. Dans l'histoire contemporaine du crime organisé, Antonio Nino Ferrara est une exception, une espèce de mélange de bandit d'honneur et de criminel ultra chevronné. Il reste évidemment le personnage central de la plus spectaculaire évasion jamais réalisée dans une prison française et même peut-être dans le monde. La fuite dans un déluge de feu et de bruit de la prison forteresse de Fresnes à l'hiver 2003. Un coup de maître, la Joconde des évasions, s'exclamera même un policier admiratif. Ainsi, il n'aura fallu qu'une poignée d'années pour que Antonio Ferrara accède au grand banditisme et s'y fasse un nom. C'est cette trajectoire unique que je vous raconte aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons voir comment un petit voyou de banlieue a longtemps fait tourner en bourrique les policiers, a gagné ses lettres de noblesse au son des explosifs, jusqu'à devenir l'une des personnalités les plus respectées du milieu.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire incroyable d'Antonio Ferrara, ce braqueur de fourgons blindés, déjà fiché au grand banditisme, va devenir à jamais, à la fin de l'hiver 2003, le roi de l'évasion. Ce 12 mars 2003, vers 4h15 du matin, le gardien du Mirador numéro 4 de la prison de Fresnes entend des portières claquer à l'arrière du bâtiment dans la rue Jean Moulin. Un bruit inhabituel à cette heure-là. Damien Delmotte aperçoit une, puis deux, puis trois silhouettes, bientôt 12. Des hommes cagoulés, certains portent des brassards de police. Le surveillant n'a pas le temps de réfléchir qu'une pluie de balles frappe les vitres blindées du Mirador. Il s'accroupit, téléphone pour donner l'alerte. Dans le Mirador numéro 3, sa collègue, la surveillante Dominique Prado, est elle aussi sous le feu. Un projectile a frôlé son crâne, tellement de tirs qu'elle pensera un moment que le Mirador allait s'effondrer. 84 impacts de Kalachnikov seront décomptés. Alors que roule le tonnerre de feu, un homme fait exploser une porte blindée qui sert aux livraisons, un passage par lequel s'engouffrent deux ou trois personnes. Des lueurs oranges illuminent le petit matin. Le commando a mis le feu à des voitures garées autour de la prison pour créer une diversion. Deuxième explosion massive avec un pain de plastique à l'entrée du quartier disciplinaire cette fois, un petit bâtiment isolé dans l'enceinte de Fresnes. Dans la fumée, un homme en jean et t-shirt en sort, c'est un détenu. Il court avec ceux qui l'ont libéré le long du mur d'enceinte, puis franchit la dernière porte défoncée. Il saute dans une Audi, un convoi de trois voitures démarre en trombe. La prise de Fresnes n'a duré que 7 ou 8 minutes. Le détenu évadé s'appelle Antonio Ferrara. Dans les heures qui suivent l'attaque de la prison, la consternation règne. Le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Perben, est sur place. Jamais une attaque d'une telle ampleur a frappé une maison d'arrêt française. Le genre de scène réservé à quelques prisons en Colombie ou au Mexique pour faire évader un baron de la drogue. C'est une humiliation, les policiers sont eux aussi sous le choc. Le gros poisson que le commando est venu chercher est Antonio Nino Ferrara, presque 30 ans. Il n'est autre qu'un braqueur expérimenté de fourgons blindés. Il a certes déjà un solide palmarès, mais les enquêteurs ont peut-être un peu sous-estimé son importance. L'opération de Fresnes, une opération quasi-militaire, démontre dans tous les cas que ce Ferrara est précieux et qu'il peut mobiliser une petite armée pour voler à son secours. Son nom est désormais célèbre. Il est le deuxième homme le plus recherché de France après Yvan Colonna, le berger corse de Cargèse soupçonné d'avoir abattu le préfet Erignac. L'évasion de Fresnes ne peut pas rester impunie. La police met un point d'honneur à le retrouver. La brigade de répression du banditisme, la BRB et l'OCRB, travaillent de concert sur le dossier Ferrara. La police scientifique s'affaire dans l'enceinte de Fresnes et ses deux miradors truffés d'impacts de gros calibre. Des tirs qui ont même fait éclater une vitre blindée. Un pistolet est retrouvé près du mur d'enceinte, mais il ne donne pas d'indice. Les déflagrations sur les portes blindées sont beaucoup plus intéressantes. On a employé ici la technique du cadre explosif. Un cadre de métal bourré de plastique collé contre la paroi. Un travail de pro. Il y a du sang près d'une porte. L'artificier s'est sans doute blessé. Dans sa cellule, Ferrara a oublié un blouson qui contient un téléphone portable. Son exploitation est fructueuse. Le Samsung de Nino a été appelé par erreur à 4h28, alors qu'il venait de s'évader. On y entend une conversation captée dans la voiture des fuyards. Ferrara s'adresse à un certain Doumé qui est blessé et dit avoir perdu un œil dans cette histoire. Les fuyards citent le nom de Karim Achoui, l'avocat de Nino Ferrara. Peut-être connaît-il lui un médecin. C'est le tout début d'une très longue enquête. Nino Ferrara est dans la nature, la police est à ses trousses et la justice bien décidée à laver l'affront de la prison de Fresnes, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que le braqueur se fait la belle. Avant que son nom ne fasse la une des journaux, Nino Ferrara était loin d'être un inconnu des policiers. Cela fait une dizaine d'années qu'il fait parler de lui. Grandi dans la cité Gabriel, à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne, ce fils d'immigré italien a vite basculé dans la délinquance. À 22 ans, il est en fuite. On le recherche dans une affaire de deal de drogue qui en fait ne le concerne pas. On l'accuse ensuite d'avoir grièvement blessé un malfrat dans une chambre d'hôtel. Puis, on l'identifie sur la bande de vidéosurveillance d'une agence bancaire de Soisy-sur-Seine. Ce 10 avril 1997, avec un complice, il s'est fait ouvrir le coffre et a emporté 20 000 francs. Trois semaines plus tard, un policier le retrouve par hasard en plein Paris. Il a tout de suite reconnu cet individu qui ne mesure pas plus d'1m66, physique nerveux, et puis ce nez qui lui a valu le surnom de « la pioche ». Ferrara est écroué à Fleury-Mérogis. Il va y rester seulement un an. Le 7 août 1998, le détenu prétexte des douleurs aux pieds. Il est amené à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Trois hommes cagoulés surgissent alors dans la salle d'attente de neurologie. Les quatre surveillants sont aspergés de lacrymogène. Première évasion réussie de Nino Ferrara. Après avoir pris la fuite, celui qui n'était jusque-là qu'un braqueur de moyenne envergure va savoir séduire les pontes du grand banditisme. On loue son courage, sa loyauté, son intelligence. La police n'établira que bien plus tard que Ferrara, à cette époque, fréquentait le milieu corse, l'équipe de la fameuse Brise de Mer, un gang spécialisé dans les braquages de haut vol et notamment l'attaque des fourgons blindés. C'est avec la Brise que Nino aurait appris l'art des explosifs jusqu'à être considéré comme un excellent artificier par certains enquêteurs. Vraie ou fausse réputation, la légende Ferrara est en route. Pendant ces quatre années de cavale, on va deviner sa signature derrière une série d'attaques de transport de fonds. Il démentira toujours y avoir participé. 5 mai 2000, 14h30, un fourgon de la société Ardial est bloqué en plein centre de Nanterre, rue Volant. La fusillade est brève, 17 balles transpercent le blindage, un convoyeur tué, un deuxième blessé, le troisième en état de choc. 11 millions de francs envolés, 26 décembre 2000, un fourgon de la Brinks attaqué de la même façon, porte de Gentilly, 41 millions de francs. Les voitures des assaillants étaient équipées de gyrophares de police. 23 novembre 2001, nouvelle attaque à Toulouse, ratée cette fois. Les convoyeurs ont réussi à se dégager. Antonio Ferrara intéresse alors au plus haut point les policiers. Après l'attaque de la porte de Gentilly, on a retrouvé son empreinte dans une planque du commando, un pavillon de pareille vieille poste, sur une canette de bière, sur un verre et sur un chargeur de Kalachnikov. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied sur la téléphonie. Ils parviennent à croiser divers numéros repérés sur les lieux des braquages et peu à peu à tirer le fil qui conduit à Nino. Celui-ci appelle notamment Mylène, une jeune femme dont il est tombé amoureux en 1999 et qui est devenue sa compagne. Mylène, qui travaille alors à la sécurité d'Orly, est identifiée. Les policiers en planque à Orly aperçoivent Ferrara sur une moto. Il est venu chercher sa compagne, mais ils se méfient. Ils ne peuvent pas intervenir. Partie remise, 13 juillet 2002. Ils l'attendent à la sortie d'un immeuble d'Athis Mons. Il prend la fuite, mais il est plaqué au sol. Sur lui, un pistolet automatique 9 mm, chargeur plein. Chez lui, 28 000 euros en liquide et le plan détaillé d'une attaque de fourgon. Il est incarcéré à Fresnes, d'où il s'évadera donc un an plus tard. Une fois évadé de Fresnes, Antonio Ferrara retrouve l'air de la cavale. Il espère que celle-ci sera aussi longue que la première. Il a de nombreux amis, de l'argent, de fidèles protecteurs. Mais là encore, le téléphone va lui jouer des tours. Lors de sa première cavale, Antonio Ferrara avait échappé aux policiers pendant 4 ans. Cette fois, ils espèrent que cette deuxième éclipse sera plus brève. Ils misent gros sur la téléphonie et reprennent leur travail de fourmi en explorant des milliers de connexions. Nino a alors complètement modifié son apparence. Il a décoloré ses cheveux, il se fait appeler Max et passe la plupart de ses nuits dans des clubs et des boîtes. Il a pris ses quartiers sur la Côte d'Azur, à Saint-Raphaël. Il a les poches pleines, prétend travailler dans le textile, séduit tous ceux qu'il rencontre avec son humour et son bagout. Un témoin dira l'avoir vu attabler avec Bruce Willis et Claudia Schiffer. Ferrara passe des coups de fil et finit par être localisé dans la petite cité balnéaire du Var. Les policiers foncent sur place, mais ne le trouvent pas. Ils l'ont raté. Ils vont patiemment attendre qu'il se manifeste à nouveau. 4 mois après l'évasion de Fresnes, les enquêteurs parviennent à localiser Ferrara. Les écoutes téléphoniques ont donné de précieuses indications. Il a rendez-vous à Paris avec un certain Julio, en fait le dénommé Hamid Akar, un évadé lui aussi, figure du trafic du stup. Le 10 juillet 2003, les policiers sont en planque. Ils suivent Akar jusque dans le 15e arrondissement, dans un bar rue de la Convention. La petite terrasse est bondée. Ferrara, Akar et un troisième homme sont au milieu du public. Hors de portée. Nino Ferrara a alors un pressentiment. Le trio quitte précipitamment les lieux à 3 sur une moto roulant en sens interdit. Un coup pour rien, même si les 3 hommes sont vite repérés dans un café du 12e arrondissement, le Peanuts Café. Le patron de la BRI en personne, le commissaire Christophe Molmy, plaque au sol Ferrara, porteur d'un pistolet Tokarev 7.62. « Encore vous !» s'exclame le fugitif.
Ils sont au fond à gauche, donc équipe de gauche, moi je suis à droite, les voit au fond. Les deux premiers n'ont même pas le temps de réagir, ils sont foudroyés, ils sont interpellés immédiatement. Et Ferrara, qui a vraiment de l'instinct, il saute de son tabouret, il part en courant, il essaye de sortir de l'autre côté par l'autre porte. Et il percute la deuxième équipe qui est en train de rentrer. Il se trouve que moi je suis devant, donc comme il me fonce dessus, et il faut bien l'arrêter. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de lui mettre un coup de poing. Et ça permet de le stopper et aux collègues de l'interpeller. Mais il était sûrement trop appuyé puisque je me suis cassé un métacarpe.
La garde à vue, sans surprise, ne donne rien. Nino est parfaitement décontracté. Il apparaît bronzé et souriant sur les images tournées par les télés à la sortie du quai des Orfèvres. Antonia Ferrara est cette fois sous bonne garde. Le prisonnier le mieux surveillé de France, c'est sous haute protection qu'il va comparaître 3 ans plus tard pour une très longue série de procès. Le 6 février 2006, Nino Ferrara comparaît une première fois pour des faits anciens de vol et de tentative d'homicide sur des policiers. Il écope de 15 ans de prison. Deuxième procès le 17 novembre 2006. Cette fois, on le juge pour l'attaque du fourgon de la Brinks, 6 ans auparavant, porte de Gentilly, 11 ans de prison. L'addition n'est pas terminée. Le vrai procès de Ferrara, celui de l'évasion de la prison de Fresnes, une histoire appartenant désormais à la légende du crime, s'ouvre le 2 octobre 2008. Le braqueur fait une entrée remarquée. Lourde escorte de policiers cagoulés, rue bloquée, hélicoptère pour surveiller le convoi, nouveau box à l'épreuve des balles, procès prévu pour durer 2 mois. Dès le premier jour, Nino Ferrara disculpe les 21 hommes jugés à ses côtés. Seul l'artificier blessé, à un œil, Doumé, Dominique Battini, admet sa participation. Nino Ferrara ne reconnaît rien et amuse la galerie. Quand on lui demande d'où viennent les 1200 euros en pièces découverts chez lui, il répond « Je faisais les parcs-maîtres ». Quand on le questionne sur le financement de sa cavale, il dit « Ouh, ça c'est une question qui sent les menottes ». Sur le téléphone trouvé dans sa cellule, c'est un pigeon voyageur qui a dû l'emmener. 6 novembre 2008, après un mois de procès, une bousculade s'empare du box des accusés, tentative brouillonne de faire reporter le procès. La présidente de la cour, Jeanine Drey, demande à Ferrara d'intervenir pour que cesse le désordre. Le braqueur ramène tout le monde au calme, sans se douter qu'il vient de passer ainsi pour un authentique meneur. Un vrai patron qui a de l'autorité. L'accusation ne va pas manquer de se servir de cet incident d'audience. Antonio Ferrara est condamné à 17 ans de prison pour l'affaire de Fresnes, la plus lourde peine jamais prononcée pour une évasion. L'un de ses avocats, maître Lionel Moroni, dénonce alors un règlement de compte, Nino Ferrara étant selon lui une pure création des services de police. À 35 ans, Antonio Ferrara se retrouve derrière les barreaux pour de très longues années. Après avoir été l'homme le plus recherché de France, il va devenir le détenu le mieux gardé du pays. Lourdement condamné et écroué derrière les murs de Fleury-Mérogis, Antonio Ferrara est victime de sa réputation. On le soupçonne toujours de vouloir se faire la belle. Il va donc être soumis à de drastiques conditions de détention, un hygiaphone blindé pour parler à ses visiteurs de parloir, aucune rencontre avec les autres détenus, seul à la salle de sport, seul dans sa cellule, des gardiens cagoulés pour le surveiller en permanence. Il va souvent changer de cellule et de prison au fil des nouveaux procès et des acquittements qui suivent le braquage de Gentilly, l'attaque du convoi de fond de Toulouse, l'abandon des poursuites dans l'attaque de Nanterre. Le braqueur va retrouver peu à peu un peu plus d'oxygène. Lors de son dernier procès en 2012, il déclare « Quand je serai libre, je reviendrai dans le public pour écouter vos plaidoiries ». Après l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau, établissement où il était alors détenu, il mettra un point d'honneur à dire qu'il avait regagné le plus rapidement possible sa cellule. Antonio Ferrara a vu sa dernière demande de confusion de peine refusée. Il serait grand temps qu'autour de lui, le fantasme se dissipe, estime son fidèle avocat Amar Bouaou. Selon lui, Nino Ferrara, le roi de la belle, n'aurait aujourd'hui qu'une seule envie, retrouver sa compagne et leurs deux enfants, et qu'on oublie son nom, sa libération conditionnelle est fixée à 2025.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.